divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Fawzia Scharfi, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste, non seulement parce que vous êtes physicienne, vous avez reçu le prix Tesla en 2014, prix nommé en hommage au physicien Nikola Tesla, un des pères fondateurs de l'électromagnétisme, pour vos travaux sur l'électromagnétisme et particulièrement sur les propriétés optiques et électroniques des semi-conducteurs. Vous êtes donc non seulement une grande savante, mais vous êtes aussi une femme politiquement très engagée, une militante, comme l'était votre époux, Mohamed Scharfi, avec lequel vous formiez un couple exemplaire. Vous avez été nommée secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire issu de la révolution du 14 janvier 2011, gouvernement dont vous avez démissionné pour reprendre votre liberté de parole et d'action. Vous avez écrit deux ouvrages importants chez Odile Jacob, dont nous allons parler au cours de cette émission, « La science voilée en 2016 » et « Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui » en 2017. J'ai la chance de vous interroger lors d'un de vos courts passages à Paris, et les auditeurs de France Culture ont la chance de vous entendre en ce dimanche de Noël. Dans les deux ouvrages que vous avez écrits, vous parlez de votre rapport à l'islam et vous dites toujours, en essayant de penser les choses historiquement, ce qu'est l'islam pour vous et en quoi la montée de l'islam politique que vous avez vécu d'extrêmement près et peut-être aussi vécu et subi amèrement a changé pour vous les choses. Ce que j'aimerais dans une de vos premières interventions, c'est que vous nous disiez un mot sur votre trajectoire de chercheur et de professeur et sur les changements dont vous avez été témoin ces derniers temps.
Alors j'ai commencé à enseigner peu de temps après l'indépendance, en 1964. Il n'y avait pas beaucoup de Tunisiens à l'université et encore moins de femmes. Donc, je me suis beaucoup impliquée d'abord pour l'enseignement. Et ensuite, une dizaine d'années après, j'ai commencé mon travail de thèse parce que, évidemment, pour moi, être à l'université, c'était enseigner et être chercheur. Et j'ai réussi à monter une équipe de recherche de physique des semi-conducteurs. Donc, fin des années 70. Et ce qui est remarquable, c'est que j'étais la seule femme dans l'équipe. Et c'était moi qui dirigeais l'équipe. Donc, voilà. C'est pour dire qu'en fait, la Tunisie est un pays à part dans le monde arabe, où les femmes ont eu très vite leur place après l'indépendance. Je pense que ça doit continuer.
Et ça, c'était grâce à Bourguiba ?
C'était grâce à Bourguiba, mais c'était aussi grâce à des Tunisiens comme mon père, qui était très ouvert et qui était, lui aussi, avait fait ses études à Paris et fils d'un instituteur bilingue, donc de français et d'arabe. Et moi, je crois beaucoup au rôle de l'éducation. Vous imaginez, petite fille d'instituteur. Eh bien, ça marque une petite fille, on va dire.
Évidemment. Voilà. Alors, au fond, qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que ce rapport à la place prédominante des femmes en Tunisie est toujours d'actualité ?
Elle est toujours d'actualité. Les femmes sont présentes dans tous les secteurs. À l'université, il y a 64% de filles. Au niveau des diplômés, il y a aussi 65% de filles diplômées. Alors, dans le monde du travail, c'est un peu différent parce que là, ce sont pas seulement les filles qui décident de leur avenir, mais c'est aussi les chefs d'entreprise et le regard qu'a la société par rapport aussi à des femmes qui vont être responsables, etc. Donc, on a encore du chemin à faire. On va dire cette avancée des femmes se traduit aussi dans tous les domaines, y compris le domaine politique, parce que c'est bien qu'il y ait des femmes aujourd'hui médecins, qu'il y ait des femmes à l'université. mais c'est très important qu'elles soient aussi, aussi nombreuses dans les postes de décision.
Oui.
Ce qui n'est pas toujours le cas, on le voit, bon, à l'Assemblée, elles ne sont pas majoritaires, mais ce qui est très intéressant actuellement en Tunisie, malgré toutes les difficultés économiques que nous avons, nous avons aussi des difficultés parce que l'islam politique est présent partout, en fait, sur la planète. Nous ne sommes pas les seuls à subir ces contraintes de la part de gens qui ont une vision dogmatique, en fait, de la société. Nous avons le projet de faire en sorte que les filles puissent être héritières au même titre que leurs frères, à égalité. Donc, il y a une loi pour l'égalité en héritage et l'égalité tout court en Tunisie. Donc, c'est le chef de l'État qui l'avait décidé en août dernier, à la journée de la femme. Et donc, ça, c'est un projet extrêmement important et qui va montrer que le travail qu'avait commencé Bourguiba déjà en 1956 et se continue aujourd'hui.
Oui, se perpétue.
Voilà, se perpétue malgré la pression des islamistes.
Voilà. Alors, justement, nous allons en parler parce que dans La science voilée, vous avez montré le double détournement de la religion et de la science par le concordisme musulman qui envahit notamment Internet. Pourriez-vous en expliquer certains mécanismes aux auditeurs de France Culture? Je pense notamment au rapport à la vérité, comme à la théorie de l'évolution, qui me paraissent deux exemples emblématiques que vous développez dans votre livre.
Oui, alors c'est intéressant de réaliser qu'en fait, ce monde musulman qui a été très présent pendant plusieurs siècles dans le domaine de la science
et très en avance
était très en avance par rapport à tout le bassin méditerranéen. On avait vraiment des centres de recherche de l'Andalousie jusqu'à l'Inde du Nord. Bon, la science a quitté ses contrées, comme dit Gemelledine Avrani, un grand réformiste du 19e siècle, qui était aussi pan-islamiste, hein, c'était pas un laïc, hein, on va dire, je dis ça en
passant. À l'union rationaliste.
Voilà, à l'union rationaliste. Eh bien, en fait, Gemelledine Avrani dit, voilà, nous sommes tombés dans des ténèbres, il va falloir sortir de cette obscurité, en quelque sorte. Et le 19e siècle, qui était un siècle de la Renaissance, a retrouvé l'amour de la science, je vais dire. Et l'attrait de la science. Mais ça ne veut pas dire que la science s'est remise, a été remise à l'ordre du jour dans toutes les institutions. Non, pourquoi je reviens à ce 19e siècle? C'est qu'à cette époque-là, les exégèses du Coran, du texte coranique, ont commencé à prendre une autre tournure, on va dire. Et elles ont commencé à séduire des savants, entre guillemets, enfin, des personnes, disons, assez instruites, mais qui n'étaient pas nécessairement des théologiens, et qui ont cherché, dans le texte coranique, à considérer que certaines descriptions qui parlaient des mystères de la nature, etc., pouvaient correspondre à des découvertes récentes. Et des découvertes qui étaient faites par les Européens, puisque la science avait donc quitté ces terres d'islam. Alors ça, c'est le 19e siècle. Et petit à petit, en fait, ça s'est déplacé. C'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte que finalement, ceux qui ont voulu commenter le Coran en étant séduits par la science ont un petit peu oublié ce qu'est une exégèse d'un texte sacré, en voulant montrer à tout prix que le Coran n'était pas seulement un miracle littéraire, mais c'était aussi un miracle scientifique, et que toute la science, y compris la science moderne, existait dans le Coran. Alors, ce phénomène-là...
Cette dérive,
vous voyez, qui alors s'est aggravée au XXe siècle, parce que là, on est allé encore plus loin en considérant que même le Big Bang donc,
était dans le Coran,
les trous noirs... Enfin, toute la science
contemporaine.
Contemporaine, exactement. Et fin du 20e, là aussi, la dérive, alors, s'est amplifiée par l'utilisation d'Internet. C'est-à-dire que là, on a vu naître des vidéos qui vont, à force de photos, de documents de la NASA, etc., vous montrer, entre deux versets, comment toute la science moderne, donc, se trouve dans le texte coranique.
Voilà. Donc, ce que vous dénoncez dans vos livres, c'est cette collusion entre un islam fondamentaliste radical et Internet, comme si, justement, ils avaient trouvé là un moyen d'empêcher de penser.
Voilà, parce que pour eux, c'était une manière aussi, dans le fondamentalisme, ce mouvement des frères musulmans, donc qui est né après la chute du califat en 1928, c'est un mouvement qui s'est inscrit contre l'Occident, hein, ça c'est très clair, contre les valeurs occidentales. Et donc, la science était quand même déjà très présente à cette époque-là, aujourd'hui elle l'est encore plus. Et donc, ces promoteurs de l'islam politique, dont les ancêtres sont les frères musulmans, parce qu'ils ne sont pas tous, ils ne se déclarent pas tous comme étant affiliés aux frères musulmans, considèrent que la science moderne, de toute façon, a été découverte il y a 14 siècles, et donc que les Occidentaux se sont accaparés une science qui, en fait, est une science islamique. C'est une manière de récupérer la science, évidemment, sans la récupérer, puisqu'ils refusent les fondements de la science. Mais quelle est l'idée fondamentale? Comment expliquer? C'est qu'en fait, c'est le rapport à la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, qui est la vérité de la révélation. Ces découvertes scientifiques, dont il pouvait y avoir des allusions dans le texte coranique, en réalité, il n'y a pas de vérité scientifique telle que le disent les Occidentaux. Mmh. On reproche d'ailleurs aux Occidentaux d'avoir obligé l'Église à se retirer en quelque sorte de ce grand champ de la connaissance.
Oui, voyez, et de rester sur la sphère privée.
Exactement, et de rester sur la sphère privée, mais eux sont décidés à rester
sur le champ de la science
et à investir la science sans en être en fait les créateurs, mais en utilisant tous les moyens technologiques les plus sophistiqués pour montrer qu'ils sont détenteurs de cette science moderne. Mais pas toute la science moderne, parce que vous me disiez la théorie de l'évolution.
Bien sûr.
Ben oui, mais la théorie de l'évolution, qui pourtant, il y avait des prémices de cette explication de l'évolution des êtres vivants chez les anciens musulmans, les savants musulmans, el-Jahath, donc 9e siècle, un grand Mu'tazili, c'était l'école rationaliste de l'époque, et d'autres par la suite, je n'ai pas le temps d'en parler, mais bon, c'est très clair que jusqu'à Ibn Khaldoun, donc le père de la sociologie qui était aussi un grand historien, explique que pour lui, il y a eu évolution des êtres vivants, donc il y a une certaine gradation, etc. Et en fait, on voit disparaître cette notion d'évolution des espèces au profit d'une théorie créationniste qui est totalement inspirée du créationnisme anglo-saxon. Mm-hmm. Alors, je dis totalement, mais en fait, pas tout à fait totalement,
Il est acculturé à l'islam
parce que dans la tradition musulmane, on ne parle pas des 6000 ans, on ne dit pas que la Terre n'a que 6000 ans, en fait. Donc, on accepte le Big Bang, on accepte les 13 milliards d'années et on superpose à cela le créationnisme anglo-saxon. Aucune cohérence, mais ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, ce n'est pas ce qui caractérise l'islam politique.
Bien sûr. Alors, dans Sacrée Question et non dans La Science Voilée, vous insistez sur trois points qui vous tiennent particulièrement à cœur. Certains que vous avez déjà développés sur la question de l'égalité entre hommes et femmes en Tunisie. Vous travaillez aussi sur le calendrier islamique qui est soumis à l'incertitude de la représentation visuelle. Et vous travaillez également sur l'interdiction de la représentation imagée. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la question de la représentation, de la question du calendrier islamique ?
Alors, en deux mots, vous voyez, je parlais de cohérence. Le calendrier islamique, donc, c'est un calendrier lunaire, strictement lunaire, contrairement au calendrier hébraïque, qui fait qu'on rattrape un petit peu l'année. Et là, on veut s'en tenir, non pas au texte coranique qui se contente de définir le calendrier lunaire et le fait que, voilà, il y a un certain nombre de mois, donc l'année va être plus courte, mais on s'attache à des hadiths, c'est-à-dire des faits et dires du prophète, qui imposent que lorsqu'il y a, pour savoir quand est-ce que le mois du Ramadan va commencer, il faut regarder visuellement, donc il faut qu'il y ait une observation directe du croissant lunaire, donc qui, kiné et qui indique que le mois lunaire donc a commencé. Et c'est un refus de l'utilisation des calculs astronomiques, mais alors que dans l'histoire il y a eu les Fatimides qui avaient un calendrier calculé, etc.
Aujourd'hui,
astronomiquement, la Turquie utilise les calculs astronomiques, mais la majorité des pays arabes refusent cela en voulant rester conforme à ces hadiths qui disent, entre autres, nous sommes un peuple d'illettrés, nous ne savons pas compter. Vous voyez que, juste pour terminer, nous ne savons pas compter. Par contre, les prières, elles, sont déterminées par le calcul et il y a des montres très sophistiquées qui peuvent vous dire dans 50 ans à quelle heure exactement aura lieu la prière de midi, etc.
Vous nous montrez très clairement, Faouzia Sharfi, que quand on islamise la science, on désacralise le Coran et oui, que ce rapport-là n'est pas un rapport scientifique.
Il n'est pas ni religieux, parce que, vous voyez, je disais tout à l'heure, je commençais par l'exégèse. Eh bien, l'exégèse suppose que l'on connaisse la langue arabe, les finesses de la langue arabe, qu'on ait vraiment une compréhension de toute cette histoire de l'époque. Et les exégèses étaient des grands savants. Bon, certaines exégèses pouvaient différer, mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette analyse-là, on est simplement dans, on déroule, en fait, des miracles scientifiques, on déroule le Big Bang, etc. Et entre deux étapes du Big Bang, on va sortir un verset du Coran.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Faouzia Sharfi, je vous remercie.
Merci à vous.
Je remercie Jean-Louis Deloncle et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission. Le vendredi 19 janvier de 18h à 20h, 24 rue Laumont, nous remettrons le prix de l'Union rationaliste à Chala Shafik dans la salle de conférence 4 à l'École normale supérieure. Je rappelle les titres des ouvrages de Faouzia Sharfi, « La science voilée et sacrée question pour un islam d'aujourd'hui ». Et je signale que Faouzia Sharfi va faire une prochaine contribution sur l'islamisation de la science et la désacralisation du Coran dans le prochain numéro de Raison Présente.